J'ai marqué Collège Royal d'Édimbourg parce que ça marque mieux. D'ailleurs, il y a trop de discrimination entre les bahuts. C'est vrai, après tout, c'est toutes des écoles. Non, on est tous fait pareil, hein. Je trouve que l'important, c'est l'idée générale. C'est pas les détails qui comptent. La plupart des gens, ils sont carrément obsédés par les détails. À quelle école t'as été? Combien d'options t'as choisi? C'est peut-être 6 ou, je sais pas, 0. Aucune importance. Ce qui est important, c'est que je sois là. Un point, c'est tout.
Libre Radio, le choix de la bonne option.
Voilà, donc nous sommes de retour en direct et en public depuis le Studio 99 à l'espace quartier des Charmies, à la rue de Lyon 99, en compagnie désormais de Roland Burkhardt. Bienvenue à toi, Roland.
Bonjour.
Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tout va bien?
Parfaitement bien installé. Ah, quelle charmante radio.
Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à te recevoir. Alors, tu viens parce que tu es le président de l'association Aide en Raid. Alors, c'est une association que tu vas présenter, je pense que c'est plus facile, mais quoi qu'il en soit, je voulais d'ores et déjà donner le site internet de l'association, donc c'est l'adresse suivante, www.aide-en-raid.ch. Et ce qui m'a immédiatement fasciné, en tout cas, c'est bon, évidemment ce projet humanitaire dont tu vas parler, bien entendu, mais sur le site, quand on arrive dessus, eh bien, on a déjà plein de langues différentes qui arrivent. Et puis, on a ce logo avec une planisphère, et puis le drapeau de la Suisse, et puis un bus, ou en tout cas un 4x4. Et puis, on voit que... Alors, on parlera après du projet en cours, hein, mais on s'aperçoit tout de suite que voilà, c'est du concret. C'est que vous partez dans des endroits extrêmement difficiles d'accès, toucher des communautés qui en ont vraiment besoin. Et ce que je veux dire que c'est du concret, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Vous prenez, vous y allez, et vous amenez, et vous faites connaissance de ces personnes-là.
Exactement.
Alors, on va revenir bien entendu là-dessus, mais effectivement, c'est assez impressionnant. En tout cas, je recommande vraiment de se rendre sur le site internet. Il y a des photos et les projets sont illustrés. C'est extrêmement intéressant. Alors, Roland, dis-moi, comment est née et quand est née cette association?
Alors, c'est une association que j'ai créée en 2009. Après avoir fait un raid qui se voulait humanitaire en Roumanie avec une organisation française. Puis cette organisation française, elle avait simplement pour but de poser un petit sac poubelle avec quelques habits dans un village, de consommer un café ou quelque chose qu'on nous conservait, et puis de s'en aller dans l'heure qui suivait. Quand on m'a parlé de ce raid humanitaire, je suis venu avec mon Land Rover, j'ai rempli ce Land Rover avec une chaise roulante, j'ai mis là-dedans des béquilles, j'ai mis des médicaments, je l'ai bourré de vêtements, de chaussures, de tout ce que je pouvais trouver pour finalement aider les gens. Et pour vider le véhicule, ça a pris un peu plus de temps que le petit sac des amis français. Et là-dessus, j'ai trouvé que l'organisation qui avait été mise en place, ça ne me convenait pas. Donc j'ai dit, je vais faire quelque chose un peu à la Suisse, et puis on va le faire bien avec des amis. Mmh. Et ça a démarré en 2009, et ensuite on s'est un peu focalisé sur deux pays, la Roumanie et le Maroc. Et alors on est parti avec des Land Rover, avec des 4x4 au Maroc en 2010, c'était le premier raid, lors duquel on a fait un peu du repérage, enfin on est passé dans l'Atlas, on a emprunté des pistes, et puis on a rencontré des gens Oui.
Précise peut-être ce qu'est l'Atlas, parce que c'est compliqué l'Atlas. Alors, c'est une chaîne de montagnes, tout ça.
C'est une grande chaîne de montagnes. Le Maroc, c'est un pays absolument extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout. J'y suis allé donc pour la première fois en 2010. Et puis l'Atlas, ça partage le Maroc carrément en deux, pratiquement. C'est des chaînes de montagnes à plus de 3000 mètres. Il y a des gens qui vivent dans ces montagnes. Ce sont des Berbères. Et ils ont une langue qui leur est propre. Et il y a même plusieurs dialectes berbères. Et ce sont des gens qui sont très accueillants, mais qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont pauvres, ils n'ont pas d'accès nécessairement à l'eau courante. Parfois, il faut faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau, à dos de mulet ou Voilà, donc c'est pas forcément facile. Il y a pas de toilettes, il y a pas de commodité. Certains, ils ont même pas l'électricité. Le chauffage, difficile en hiver. Certains, ils se chauffent au bois ou alors avec des bonbonnes de gaz. Enfin bref, c'est des conditions extrêmement difficiles. Alors, on a rencontré des gens dans différents douars, dans différents villages, des familles. Et puis, voilà, on leur a distribué des vêtements. Enfin, au début, on n'avait pas grand-chose. On avait récolté un peu de matériel. Et puis, voilà, on amenait ce qu'on avait, des t-shirts, des vestes, des chaussures, des peluches pour les enfants, des stylos, des crayons, des choses comme ça. Et les années suivantes, on y retournait chaque année au Maroc, et on a amené de plus en plus de matériel. On a commencé à faire quelque chose d'un petit peu plus, plus lourd, si on peut dire, puisque en 2012, si je ne m'abuse, on a installé une pompe à eau solaire dans une région près de Ouarzazate pour aider un petit douar, un petit village. Qui n'avait pas d'accès à l'eau facilement, quoi. Les femmes balançaient des seaux au fond du puits pour les remonter, etc. Donc on a fait cette installation. On a eu la chance aussi d'avoir des entreprises qui fabriquent des kits solaires qui nous ont aidés ou qui nous ont donné ou qui nous les ont vendus à des prix. Qui défient toute concurrence. Mmh. Et on a pu installer l'électricité chez certains habitants. Voilà, disons, ce qu'on a fait. Ensuite, on a participé dans un douar qui s'appelle Douar Bougera, c'est dans la région d'Ifrane, pour une famille dont on est devenu vraiment très amis. On a participé pour faire un puits et puis pour payer la pompe. Alors là, ils avaient l'électricité, donc c'est une pompe électrique. Là, ils avaient à peu près 3 km pour aller chercher de l'eau. Et ils ont maintenant de l'eau à côté. On a aussi financé des sanitaires qu'ils ont construits eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, on a fait un raid dans un village qui s'appelle Tarbat en Tirsal, qui est absolument magnifique, à 2100 mètres d'altitude. C'est à peu près à 2 heures de piste de Demnat. Demnat étant une ville qui est aussi à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de Marrakech. Alors là, dans ces montagnes, on arrive dans un village, c'était un peu le bout du monde, avec des chaînes de montagnes tout autour du village. C'est absolument magnifique. Et puis bon, il y a rien, hein. Il y a pas de passage de véhicules parce que bon, il faut monter là-haut, c'est pas forcément évident. Et là, on a fait avec une infirmière qui s'est joint à nous à partir de 2013, si je ne m'abuse, une infirmière de l'hôpital Pourtalès de Neuchâtel.
Christelle Belkir, c'est ça?
Oui, Christelle Belkir. Christelle, absolument hyper motivée, a fait des interventions, c'est-à-dire qu'elle recevait des gens qui demandaient une consultation pour toutes sortes de problèmes dans une maison qu'on a un petit peu squatté. Enfin, on nous a invités, bien sûr, pour pouvoir faire ces consultations. Mais en trois jours, elle a fait pratiquement 300 consultations.
Incroyable.
On était complètement crevés. Elle n'était pas toute seule. Il y avait évidemment encore d'autres personnes qui sont avec nous et qui nous ont aidés. On a essayé dans ce village, justement cette année-là, de sensibiliser les enfants aux problématiques qu'il faut se brosser les dents. C'est pas toujours facile parce que voilà, ils ont des problèmes d'eau, bref, etc. Mais on a distribué des centaines de brosses à dents, pratiquement une à chaque enfant, avec un tube de dentifrice, et en expliquant avec des dessins, avec des choses qu'on avait préparées à l'avance, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On les a sensibilisés aussi par rapport aux déchets, parce que ce qui est terrible quand on va dans ces villages, ils sont hyper charmants, ils sont adorables, hein. Les gens et les villages sont beaux, mais ils jettent tout par terre. Et alors là, vous trouvez tout, quoi, des boîtes de conserve, enfin toute la pollution de la société industrielle, vous la retrouvez sur les chemins, dans les champs, à côté des maisons, les pets et les bouteilles d'huile et autres trucs qui se retrouvent par terre, les sacs en plastique, etc. Et on a un ami qui s'appelle Benoît Burnier, qui a un garage et qui nous aide pour les véhicules, qui nous a fabriqué des tonneaux qui sont vraiment très bien conçus, puisqu'il nous met il soude une grille à peu près à un tiers du tonneau, et dessous il fait un appel pour qu'on puisse mettre un peu de combustible, et alors après ça brûle et vous mettez les déchets par-dessus. Donc on a essayé de les inciter à brûler leurs déchets plutôt que de les jeter par terre, pour qu'après il y a encore les vaches ou les moutons qui les mangent, ou qu'ils se fassent mal en marchant avec des chaussures qui sont de mauvaise qualité. Donc l'idée c'était ça, et ça pas trop bien marché, parce que dans le fond faut que c'est des efforts, hein, et c'est pas toujours facile. Dans le Doir, Bougera, là après l'Ifrane, en revanche, là ça a très bien fonctionné, et ils brûlent leurs déchets. Alors on me dirait, bon ben oui, il y a la pollution, ça va partir dans l'air, mais enfin, est-ce que c'est pas mieux que ça parte dans l'air que de rester dans la terre pendant 500 ans? Moi je pense que les brûler, c'est quand même une meilleure méthode.
Oui, puis ça participe d'une démarche au moins où on réfléchit à ça. Après, d'autres solutions, pourquoi pas, pourraient voir le jour plus loin, voilà. Dès lors que justement on commence à prendre à bras le corps le problème et qu'on l'a identifié. A commencé à le traiter. J'avais juste une question, parce que tout cela est extrêmement intéressant, donc on a envie de t'écouter, parce qu'on dirait presque une liste en compte. Hein. Quand tu as dit « nous sommes partis », qui est parti ? On a compris, donc il y a en tout cas une infirmière. Combien êtes-vous et qui êtes-vous qui partez ? Parce qu'il faut quand même avoir une sacrée santé. On va à 2100 mètres d'altitude dans un 4x4, voilà, ça caille, etc.
Non, ça caille pas. Au contraire, c'est top. Si c'est l'été, c'est un petit peu comme chez nous à 2100 mètres d'altitude.
Okay.
En revanche, il fait très très chaud si on reste à Marrakech ou dans
j'imagine.
Alors là, c'est terrible.
En fait, on est mieux à la montagne.
On est mieux à la montagne, on est beaucoup mieux à la montagne. Et puis alors, on a des ciels étoiles. C'est top le soir.
Faisons partie de gens qui aimons observer la voûte céleste, on serait bien là-bas. Mais alors voilà, qui êtes-vous ? C'est des groupes de combien de personnes qui partent ?
Alors, ça dépend, parce qu'on a toujours fait ça pendant les vacances, donc on est tous des professionnels. Moi-même, je suis avocat, d'autres sont mécaniciens, d'autres sont enseignants, d'autres sont employés. Par exemple, j'ai un ami qui est employé à l'administration fédérale, il travaille au palais fédéral. Donc, on a tous des professions et finalement, on part l'été. Alors, certains, il y a des années, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont prévu autre chose, etc. Donc, c'est un peu un petit groupe qui change ou qui a changé un peu. Il y a des personnes qui sont venues au début qui ne sont plus là, et puis maintenant. Mais il y a toujours quand même un noyau.
Oui.
Hein, Benoît, le mécanicien, un autre mécanicien qui s'appelle Xavier Schmutz, qui est absolument magnifique, qui connaît tous les Land Rover de A à Z, et puis sa femme, Aude, tous ces gens-là, c'est vraiment le noyau, quoi. Alors il y a Jean-Pierre qui est à Berne, il y a Christelle qui est à Neuchâtel, et puis ici à Genève, il y a, pour l'aspect administratif, il y a mes secrétaires. Enfin voilà, on est un petit groupe. Et puis j'ai un ami électricien qui est aussi venu avec nous cette année en Roumanie, c'est Michel Cottier, avec sa femme et sa famille. On a fait un raid absolument magnifique, on a amené... à l'école d'un petit village qui s'appelle Gourassolsi. C'est je sais pas, une centaine de kilomètres de Suceava. C'est tout au nord-est de la Roumanie, donc on n'est pas loin de la frontière moldave et de la frontière ukrainienne. Et dans ce village, on a amené cette année un lit de malade électrique. Oui. Que Michel a préparé, réparé, etc. On a amené des chaises roulantes, on a amené du matériel pour l'école, des tables. Par exemple, on avait constaté que les bureaux des profs étaient complètement dégradés. Donc on a pu prendre, on nous a donné des bureaux qu'on a démontés, qu'on a remontés. C'est un de nos amis architectes, je lui fais un petit peu de pub aussi.
Mais bien sûr.
C'est Claude Villa, du bureau d'architecture Villa et Associés. Il déménageait son bureau et il nous a donné des tables, des chaises, enfin bref, plein de matériel qu'on a pu amener et qu'on a remonté dans cette école l'été dernier. Donc voilà, on a aussi des sponsors. On a eu par exemple, et on a toujours la maison Carandache qui nous a donné systématiquement à chaque fois qu'on faisait des raids des quantités de crayons ou de néocolores ou de stylos, enfin de matériel pour les écoles. On a eu Longines qui nous a systématiquement offert une montre. Les montres Longines nous ont offert des montres chaque fois qu'on faisait une tombola. Donc on a des soutiens quand même assez importants. Et puis j'aimerais quand même signaler aussi que l'année passée, il y a une association de badminton qui a organisé un tournoi de badminton en face d'Aligro, il y a un grand centre sportif.
Oui, au Val d'Arve.
Au Val d'Arve, voilà, merci. Eh bien, ils ont organisé un tournoi de badminton lors duquel cette association a demandé à ses membres de récolter du matériel. Donc, on a reçu une quantité vraiment très importante de matériel, là encore des vêtements, des chaussures, des raquettes de badminton, des raquettes de tennis, un matériel incroyable qui a rempli une remorque. Et puis ils ont récolté aussi des sous et ils nous ont offert 10 500 francs.
Wow.
Ce qui est une somme vraiment très importante pour nos diverses actions. Et alors, j'aimerais encore signaler que j'ai fait venir ici en Suisse de ce douar Bougera qui est donc près d'Ifrane. Un jour, un des pères là, des familles qu'on aidait est venu avec un passeport en me disant, tu prends ma fille parce qu'à 14-15 ans, elle va être mariée. Et puis ici, ils font 10 km pour aller à l'école. C'est extrêmement difficile, ils n'apprennent rien. Les profs, ils tournent régulièrement, ils ne sont pas investis. Et puis, ils sont 40 par classe. Donc, prends ma fille, puis qu'elle apprenne quelque chose. Je dis, bon, c'est un peu compliqué quand même parce que... Il y a une responsabilité, c'est pas forcément évident d'avoir une jeune fille. Elle avait à l'époque, quand il m'a demandé ça, elle devait avoir 11-12 ans. Je dis bon, ça travaille un petit peu. Je me suis dit, on pourrait peut-être essayer, et puis on verra, on pourrait peut-être aider quand même quelqu'un. Bon, voilà, vous allez dire, on peut favoriser des villages, on peut favoriser des communautés, et puis peut-être qu'on peut aussi dire, bon, ben, ok, favorisons peut-être une personne. Et, bon, je suis parti de cette idée, puis j'ai fait les demandes d'autorisation pour la faire venir. Les parents, de leur côté, ont fait toutes les démarches au Maroc pour avoir les papiers de pouvoir voyager avec elle, puis transfert de l'autorité parentale, etc., lors du séjour en Suisse. Et contre toute attente, moi je n'y croyais pas, on a reçu un visa pour la faire venir. Et alors, elle est venue à l'été 2015 en avion. Donc, elle ne se rendait pas compte. Elle pensait qu'elle allait faire quelques kilomètres, puis elle allait vivre un peu plus loin dans un endroit où on peut aller à l'école. Mais elle n'imaginait pas qu'elle allait prendre l'avion. Et elle a pris l'avion et puis elle est arrivée. Et puis voilà, elle a découvert un autre monde en quelque sorte. Elle s'appelle Dricia, c'est un peu notre égérie ou notre muse. Et alors Dricia, cette année-là, on est parti en Roumanie l'été et elle nous a accompagnés. Et puis ensuite, elle a appris un petit peu quelques mots de français. Puis ensuite, je l'ai mis dans une école. Je lui ai payé une école privée, l'école Töpfer. Et dans cette école, c'était un challenge aussi parce que le directeur, M. Gabiou, un homme absolument fantastique, extraordinaire, quand il a vu Dricia, il lui a fait faire une petite opération de calcul, je ne sais plus, 5 plus 7 ou enfin... Alors évidemment, elle n'avait pas encore le français, elle ne maîtrisait pas, donc il lui a écrit, mais elle avait une peine terrible de calculer. Et alors, il a parlé aux maîtresses qui ont trouvé que le challenge était vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui avait fait peu d'années d'école, qui ne possédait pas non plus la langue française, pour l'amener à apprendre cette langue et l'amener assez rapidement à un niveau qu'elle n'avait pas à 12 ans. Et elle a fait une année absolument merveilleuse. Elle s'est bien débrouillée, elle a bien appris le français, donc elle était en immersion totale. Et puis, elle se comporte bien, donc ça s'est bien passé. Mais au bout d'une année, on est retourné chez eux et elle avait l'ennui. Elle avait beaucoup l'ennui de son village, de ses parents. Elle a un frère, une sœur, et puis maintenant elle a encore un petit frère qui est né l'année passée. Et alors elle a préféré rester. On a dit bon, mais on t'a donné une chance, tu vas pas l'avoir deux fois peut-être. Mais la vie n'est pas faite comme on le croit. Et un jour, j'avais justement mes amis les Côtiers à la maison. On était en train de dîner et Petra, l'épouse de Michel me dit « Comment va Dricia ?» Parce qu'ils ont fait du ski l'hiver, etc. Puis je dis « Écoute, je ne sais pas, parce que finalement, ça doit faire un mois et demi que je ne lui ai pas parlé. On va lui téléphoner, tiens. » Et alors, à ce moment-là, Dricia, très volubile, nous a expliqué sa situation. C'est qu'elle n'allait quasiment plus à l'école, qu'elle devait travailler. Et puis, on était tous un peu tristes de la situation. Et on m'a encouragé finalement à la reprendre. Ma femme m'a dit oui, il faudrait quand même peut-être qu'on la reprenne. J'ai dit oh, quand même, on avait fait toutes les démarches et puis finalement, elle est partie. Est-ce qu'on recommence ? De nouveau challenge, on y va. Et de nouveau, contre toute attente, la Suisse a dit d'accord et elle a eu un visa touristique et maintenant j'ai de nouveau sollicité une autorisation de séjour pour écolage. Alors entre temps évidemment Dricia elle a beaucoup mûri, elle a grandi, c'est une ado mais elle comprend super bien les choses, elle travaille super bien, je l'ai mis au cycle d'orientation, elle est en classe d'accueil, elle m'a ramené un 6 d'anglais l'autre jour, des 5-5 de français, elle est absolument top et ça fait vraiment plaisir. Voilà, alors maintenant j'espère qu'elle va vouloir rester, on va terminer l'année scolaire, évidemment on va retourner là-bas, on va voir sa famille, elle m'a dit qu'elle allait nous aider aussi pour traduire quand on ira dans les autres villages, et ça c'est super quoi, parce qu'elle est tout à fait capable.
Bah oui, et puis voilà. Vous vous préparez en plus une suite pour l'association, qui sait.
Voilà, c'est ça. Cet été, donc, on va faire un raid de nouveau médical avec Christelle.
Roumanie ou non ?
Non, Maroc. Au Maroc, ce village qui s'appelle Tarbat en Tirsal, qui est vraiment très haut dans les montagnes. On va faire ça en juillet et Christelle doit me donner encore des nouvelles, mais en principe, on sera pas mal parce qu'il y aura une apprentie infirmière qui va nous rejoindre et puis une infirmière qui est à la retraite et on attend la réponse d'un médecin. Donc on va pouvoir vraiment faire quelque chose d'efficace, je pense, dans le village.
Et là, il y a des dessins déjà que vous vous proposez de relever. Vous savez déjà, vous avez identifié les besoins auxquels vous aimeriez répondre pour ce convoi.
Oui, ce village, ce qu'on aimerait faire, c'est une espèce de, comme un dispensaire, c'est-à-dire qu'on puisse mettre à disposition un certain nombre de choses, de médicaments, et puis de former quelqu'un sur place. Ouais. Il nous avait dit, par exemple, pour les problématiques de circoncision, ils avaient quelqu'un qui s'est formé sur le tas, en quelque sorte, mais qui coupait un peu, je pense, pas comme les médecins, pas avec les règles d'hygiène que nous avons. Et cette personne est décédée, donc ils auraient souhaité qu'on forme quelqu'un. Alors je pense que là, on aura peut-être la possibilité de faire quelque chose pour ces problématiques-là.
D'accord. Tu as parlé tout à l'heure de différentes problématiques que vous avez rencontrées sur place. J'ai noté l'eau, l'accès à l'eau, l'hygiène, l'école également. Quelles sont-elles ? Y en a-t-il d'autres encore auxquelles vous souhaiteriez répondre ? Je pense à l'hygiène, par exemple, pourquoi pas à la contraception, à quelques aspects de la santé. Y a-t-il des choses auxquelles vous avez vraiment envie, sur lesquelles vous avez envie vraiment de vous investir, ou en fait, c'est la situation que vous trouvez qui va déterminer ce que vous allez faire ?
Par rapport à l'hygiène, on a fait ce que je viens d'expliquer. Oui. On a amené du savon, on essaye aussi de faire comprendre qu'il faut se laver les mains avec du savon, pas seulement avec de l'eau, quand on mange, parce qu'ils nous servent évidemment des magnifiques tagines, des magnifiques plats, on mange avec les mains, mais il faut que les mains soient propres, et l'eau c'est pas suffisant, enfin selon nos règles à nous d'hygiène, il faudrait laver aussi avec le savon, donc là aussi on a amené du savon. Maintenant, dans le domaine scolaire, c'est compliqué parce que au Maroc, il y a dans les zones rurales à peu près, je dirais 25%, 25 à 30% de jeunes qui sont illettrés, qui souffrent d'illettrisme. Ils doivent faire des dizaines de kilomètres, plusieurs kilomètres pour aller à l'école, avec des chemins qui sont pas possibles. Il y a un film du reste qui s'appelle Sur le chemin de l'école qui est absolument magnifique et qui montre par exemple une petite fille marocaine qui veut étudier, qui doit faire je sais plus 18 kilomètres par des chemins pas possibles, faire du stop pour aller à son école, enfin bref c'est compliqué et surtout ils sont très nombreux par classe. Et le système scolaire, il est, je sais pas, mais le roi du Maroc a beaucoup investi, l'État marocain a beaucoup investi dans les infrastructures. On a du réseau à peu près partout pour téléphoner. Les routes se sont considérablement améliorées. D'année en année, on voit des améliorations. Mais dans le domaine scolaire, j'ai voulu visiter l'école de Drissia. On m'a refusé l'entrée. Peut-être que les gens ont peur qu'on vienne critiquer, qu'on vienne dire que ça joue pas, je sais pas. C'est compliqué. J'aurais bien voulu améliorer le système scolaire sur place, mais on s'achoppe à un peu des barrières, à des difficultés administratives. Il faudrait pratiquement être sur place pendant longtemps pour pouvoir améliorer ça.
Ouais. Alors c'était le sens de ma question qui allait venir, c'était les problématiques que vous rencontrez, alors les problématiques extrêmement triviales qui seraient celles du relief, du fait que vous allez dans des coins reculés, mais également la rencontre avec les populations locales, tu l'as déjà ébauché, donc vous êtes accueilli à bras ouverts, mais je me demandais s'il y avait encore des tensions entre justement un pouvoir central marocain et puis des populations berbères périphériques, mais là aussi je crois que tu as un petit peu répondu, des infrastructures, en tout cas les investissements dans les infrastructures sont quand même faits. On ne peut plus parler d'une population qui est laissée pour compte.
Alors, les infrastructures, oui, ils tirent des lignes électriques, ils essayent d'amener l'eau. Il y a effectivement de réels progrès, ça c'est sûr. Mmh. Mais la vie des gens, elle ne change pas énormément. La vie des gens, c'est toujours... voilà, ils n'ont pas une cuisine équipée comme chez nous, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas nécessairement un frigo. Voilà, on vit vraiment un peu comme au Moyen-Âge, peut-être,
ouais, si on peut dire. Tu l'expliques comment, selon toi? C'est une question de société traditionnelle qui... mais pour
non,
le moment.
Non, mais c'est la pauvreté. C'est que ces gens sont aussi exploités. Quand vous travaillez dans des vergers ou dans l'agriculture pour 5 francs par jour, vous travaillez comme un malade, 50 dirhams, ça fait à peu près 5 francs. Ou disons, même si c'était 60 dirhams, je veux dire, ça ne représente pas grand-chose. Mmh. La problématique, c'est que ces gens qui... n'ont pas été à l'école ou qui ont peu été à l'école sont souvent exploités. C'est le problème. En Suisse, en 1875, on a fait la première loi sur le travail dans les fabriques. Et cette loi, qui est entrée en vigueur en 1877, elle avait pour but d'interdire aux enfants d'aller travailler dans les usines, parce qu'ils travaillaient à partir de 4 ans dans des conditions absolument déplorables, et on les envoyait à l'école. Mmh. Et je pense que l'avenir d'une société, c'est effectivement de faire en sorte que les enfants puissent au minimum apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, apprendre à réfléchir et puis pas se faire avoir par rapport à la situation. Donc ça, c'est ce que j'aimerais. Moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que ces gens puissent être, ne soient plus exploités comme ils le sont.
Selon toi, on peut apercevoir raisonnablement une amélioration assez rapide de ces conditions-là, ou c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est structurel et ça va prendre du temps.
Je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a aussi toute la problématique des traditions, d'une société patriarcale. C'est lourd, quoi. Il y a des choses qui sont absolument top, mais ça prend du temps. Il faut faire changer les mentalités. Les gamins là, à qui on apprenait à Tarbat et Tirsal à brûler les déchets, ils étaient tout contents, ils trouvaient ça rigolo de faire du feu, mais le lendemain, ça les embêtait d'aller ramasser ce qui traînait dans les chemins pour refaire un feu, quoi. Donc,
c'est pas gagné.
C'est pas gagné.
C'est un travail à longue haleine, mais en même temps, vous vous y êtes attelé.
Voilà, absolument. Ouais.
Ouais. Alors, dis-moi, les prochains projets, les prochains voyages, c'est quand et... y a-t-il une campagne de dons? Qu'est-ce qu'on peut faire pour...
Alors, prochain voyage, c'est l'été 2018. On continue de récolter toujours des vêtements, des chaises roulantes, tout ce qu'on peut récolter qui peut être utile, d'accord? Ce que j'aimerais bien pouvoir récolter, c'est du dentifrice et des brosses à dents pour pouvoir... redonner ça à tous les gamins du bled. J'aimerais bien pouvoir récolter s'il y a des gens qui ont du matériel pour qu'on puisse faire des kits solaires pour permettre à certaines familles d'avoir l'électricité dans leur maison, ce serait bien. Je sais pas, il y a tellement de choses à récolter. Alors,
vous faites des listes, vous commencez à pour disponible sur le site internet pour que les personnes puissent dire ah tiens moi j'ai ça.
Alors le site il est en cours de changement. D'accord. Là j'ai un ancien élève des arts déco, un jeune homme absolument top qui s'appelle Daniel Chava, qui nous a préparé le site de l'humanitaire et qui est en train de me finaliser le site Aide en Red, donc il va être tout beau. Donc on mettra certainement aussi sur le site Aide en Red ce genre de choses. Ce que je voulais signaler, je voulais aussi remercier l'école Topfer, parce que cette année ils ont revu Dricia, puis ils sont très contents, mais ils veulent organiser une collecte dans l'école, collecte de matériel, et puis on amènera tout ça là-bas et on leur rendra compte.
Et le groupe, y a-t-il besoin d'aide, de nouveaux convoyeurs, de nouvelles ressources humaines finalement?
Alors les ressources humaines,
vous
moi
êtes
j'ai
au complet pour le moment.
Non, mais là je pense que il faut aussi qu'on reste à taille humaine, parce que si on commence d'aller là-bas avec des 20 véhicules, etc., ça devient vraiment un petit peu comme le Paris-Dakar. Les gens vont traverser. C'est plus la même chose. Il faut qu'on reste en petit groupe, quoi. Déjà une dizaine, c'est pas mal. Donc 3, 4, peut-être 5 véhicules. certains tirent une remorque, d'autres ne tirent pas de remorque. C'est peut-être, je pense, un maximum pour l'instant. Je ne vois pas les choses à une grande échelle. Je pense que c'est, en restant un petit peu à taille humaine, on atteint des objectifs qui sont peut-être plus modestes, mais qui vont peut-être plus en profondeur parce qu'on crée beaucoup d'amitié. Chez ces gens.
Ouais, on sait qu'il y a vraiment.
On les connaît, ils nous connaissent, et puis ouais. ça crée des liens qui sont voilà, qui sont plus importants que simplement ces années administratives, etc. J'aurais plus tellement envie de le faire si ça devient le gros bastringue.
Bien sûr.
Mais et puis après, il y a l'autre aspect, c'est que si ça devient le gros bastringue, il faut payer des gens.
Ah oui, également.
Parce que les gens.
On passe dans autre chose, bien entendu.
On peut dire. Oui. Ouais, on peut dire deux mots sur l'humanité.
Alors, c'était prêt. C'était prêt. Je voulais juste encore, pour en terminer, sur cet aspect-là de l'entretien, as-tu les dates plus précises ou c'est quand tu dis été 2018, tu peux nous en dire un peu plus ou pour le moment
pas... Alors, j'ai pas de date précise, d'accord. Mais en principe, on part début juillet.
Ah, début juillet.
Alors, d'accord. La date précise, je peux pas la dire si c'est le premier, si c'est le 2, mais c'est début juillet. Et puis, c'est pour une période de 3 semaines, 1 mois. Parce qu'il faut y aller là-bas.
Eh oui.
Ça prend quelques jours.
Mais c'est clair. Je rappelle le site internet www.aide-en-red.ch. Et justement, parlons de l'Humanitaire, qui est ce lieu à la rue du Diorama à Genève où se passent des choses. Mais tu vas nous le présenter. Qu'est-ce donc que l'Humanitaire ?
Humanit Art, oui, ça c'est encore une autre histoire. Je suis toujours plein de projets. C'est un peu le hasard parce que la vie nous fait faire des rencontres, etc. Et alors, je dois revenir vers Dricia et nos amis berbères qui nous ont offert systématiquement des tapis. Et puis, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être les vendre, ces tapis, ce serait super, ça ferait un peu d'argent. Comme ça, ils travaillent et puis ils voient le résultat, parce qu'on va les vendre un petit peu plus cher quand même ici qu'au Maroc. Donc, des super tapis. Et je me disais, ce serait bien d'avoir un espace où on peut vendre un peu d'artisanat qu'on nous donne ou qu'on ferait venir pour pouvoir mettre en valeur Aide en Red. Et je cherchais un local qui n'est pas très loin de mon étude. J'ai une étude d'avocat au 13 boulevard Georges Favon. Je me disais, dans le quartier, il y avait certainement un petit local. On peut entreposer quelques trucs, puis on y va comme ça. Et puis, il se trouve qu'il y avait un local qui était vide depuis longtemps, la rue du Diorama 14. Je passais devant assez régulièrement. Et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne poserais pas la question, qu'est-ce que c'est que ce local? Est-ce qu'il est loué? Enfin, j'en sais rien. Et puis, on m'a dit, oui, ça va être loué, mais ça prend du temps. C'est un peu compliqué. Écrivez-nous. J'ai écrit. Et je n'ai pas eu de réponse. Et puis, une année plus tard, j'ai retéléphoné. Et puis, on m'a dit, ça tombe bien. Justement, on va mettre en location. Et alors, j'ai été voir, il y avait donc un espace de 120 mètres carrés avec une mezzanine et puis un sous-sol, il n'y a pas d'accès, une cave, il fallait accéder par l'allée de l'immeuble et on a tracté comme toujours, c'est comme au Maroc, hein, je te donne un peu ça, tu me donnes un peu ça, et puis finalement m'est venue l'idée qu'on est dans le quartier des Bains. Je ne vais pas pouvoir vendre des tapis, il n'y aura personne qui va venir. Il faut faire quelque chose qui est en lien avec l'art. Et comme j'ai travaillé pendant 35 ans dans une école d'art, l'école des arts appliqués qui s'appelle le CFPR maintenant, avant ça s'appelait les arts déco, je me suis dit, on va faire quelque chose avec l'art. Donc immédiatement, Eureka, Humanit Art.
Eh oui,
l'humanitaire.
Plein quartier des Bains, en plus. non, mais c'est bien. Oui.
Voilà, alors j'ai présenté le projet de faire une galerie, un espace artistique où le but, c'est de présenter des artistes et puis de lier l'art, l'humanitaire. Et voilà, c'est ça.
Et alors, l'exposition, le vernissage, c'est jeudi 8 février, dans quelques jours. Alors, de 18h à 22h.
Ouais. Alors, on a eu un premier artiste, on a inauguré le 23 novembre, un Genevois absolument extraordinaire, Boris Gratry, qui travaille sur des métaux,
des capots de vieilles voitures, des choses rouillées, et qui brûlent ça, qui les transforment à des feux de 1300 degrés, et ça devient, c'est devenu des tôles un peu calaminées comme ça, avec des colorations pourpre, bleu, enfin des fois on a carrément l'arc-en-ciel. Donc Boris a fait vraiment des œuvres magnifiques, on a exposé ses œuvres. Et puis ensuite on termine aujourd'hui avec un artiste genevois aussi, un ami de longue date puisqu'il était aussi enseignant aux Arts Déco, Charles Vogt. Et Charles Vogt nous a transporté dans les montagnes avec une exposition où il nous montre des massifs montagneux, ces tumultes d'altitude, le titre de l'exposition. Et puis le troisième artiste, alors c'est un jeune homme qui s'appelle Tchoufi, et il est genevois aussi, mais il habite en France voisine. Alors lui, c'est un style tout à fait différent puisqu'il travaille un peu sur les lignes droites, c'est très architectural, c'est des lignes, des couleurs assez fortes et très belles. C'est des grandes œuvres aussi, on a des grandes dimensions. Donc Tchoufi, à partir du 8, vernissage le 8 au soir, à partir de 18h, avec pour thème donc des labyrinthes initiatiques. Ça donne envie d'aller visiter.
Ça donne, absolument, ça donne envie. On pourrait se perdre dans des sortes de dédales, de urbains. Peut-être aussi, il y a des couleurs très affirmées. On pourrait aussi voir des liens avec Kandinsky, avec ses traits comme ça, ouais, ses couleurs.
Ouais, ou avec Escher ou Braque.
Absolument, ouais. Tout à fait. Ouais. Alors l'expo, donc le vernissage, c'est le jeudi 8 février de 18 à 22h. Et puis, l'expo sera visitable jusqu'au 3 mars.
Exact.
Et on va tout de même dire qu'alors effectivement très jeune, en 1994, artiste genevois, artiste autodidacte, ça c'est intéressant également. Ouais. Ouais. Le site internet est le suivant, www.humanitart.ch, et il y a une adresse de contact, info@humanitart.ch, un numéro de téléphone que je vais donner, 022 808 0793 ou 076 616 42 00, la rue du Diorama, pour préciser, c'est un petit peu derrière la tribune de Genève.
Oui, c'est entre la tribune de Genève et la place du Cirque.
Exactement. Voilà. Ouais. Très bien.
Juste encore un mot.
Mais oui.
Au mois de mars, donc le 8 mars, on aura encore un vernissage. Et là, jusqu'à présent, on a eu des artistes qui ont mis des œuvres contre les murs. Hein. On aura un sculpteur. Et c'est un sculpteur parisien. J'aimerais quand même en dire deux mots pour vos auditeurs, si vous me permettez.
Mais tu sais qu'on viendra. Nous, on adore. Hein. On est très, très à aller faire des visites commentées. Donc là, par exemple, si l'artiste est de passage, à un moment donné, on viendrait avec un petit enregistreur et il commenterait quelques œuvres sélectionnées par lui. Enfin.
Alors, Tchoufi, il ne sera pas là. Il est au Mexique, en train de faire un raid humanitaire.
Ben voilà.
Mais en revanche, le suivant, Victor Gingembre, il s'appelle. Victor Gingembre est un artiste qui travaille, il est aussi un peu architecte, comme ça, il travaille avec des formes absolument extraordinaires. Il travaille à la fois à Paris et en Italie. Et alors lui, il mérite d'être connu. Il est, je pense déjà, très bien connu en France. Mais en Suisse, il n'a jamais fait d'exposition. On aura l'exclusivité de montrer les œuvres de Victor Gingembre. Alors, vous allez avoir là aussi une
bonne surprise.
Une très très bonne surprise. Ouais.
D'accord.
Exact.
Voilà. Ben, on se réjouit de découvrir ça. On prend rendez-vous en tout cas, voilà. Parce que nous, on ferait très volontiers un
entretien. Et ouais, alors avec plaisir. Et il faut venir découvrir le sous-sol de l'Humanitaire, puisque évidemment, on a transformé cette cave en un lieu idyllique.
Très bien. Merci beaucoup. Roland Burkhardt, président de l'association Aide en Raid, dont l'adresse internet est la suivante, www.aide-en-raid.ch. Merci d'être venu jusqu'à nous. Courage pour ces prochains projets. Nous allons bien entendu nous tenir au courant et pourquoi pas même organiser au moins une collecte de brosses à dents et dentifrices. Ça devrait être dans nos cordes. On en reparlera en tout cas.
Ce serait top.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.
Merci, avec plaisir en tout cas. Alors, petite pause musicale et puis juste derrière, Marine, bienvenue. Nous allons parler chant polyphonique, peut-être même, qui sait, avec une petite démonstration. Mais c'est toi qui nous diras. Pardon pour ce problème d'adresse. Enfin, quoi qu'il en soit, tu es bien arrivé et c'est heureux. Petite pause musicale et je le rappelle pour nos éditrices auditeurs, si tu souhaites interroger nos invités, eh bien, tu le fais à l'adresse suivante, info@libradio.org ou alors via la page Facebook de l'émission. Ça s'appelle La Comète à la Banane. On revient dans 5 minutes.
Lutamburreggio meo vene de Roma, Lutamburreggio meo vene de Roma, currame senza ramica sull'usona, currame senza ramica sull'usona. E hai, il cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, perché l'amore gira sabe fa. E hai, il cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, perché l'amore gira sabe fa. Lutamburreggio meo e te tuzza, moiata cilu sone a cilu tuzza, moiata cilu sone a cilu tuzza. E ai, il cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sale fa. E ai, il cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sale fa. Lutamburreggio meo e te Lucia, naiata ci lu sone a ci lu pia, naiata ci lu sone a ci lu pia. E ai, lu cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sape fa. E ai, lu cuore meo, 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 ca sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sape fa.
Santo Paolo meo de Paolo meo delle tarante, pizzichi le caruse a mezzo d'anche, pizzichi le caruse a mezzo d'anche.
E ai, il cuore meo, 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 che sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sape fa. E ai, il cuore meo, 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 che sul tonico, nella, nella, nell'anima, bella l'amore ci la sape fa.
Santo Paolo meo de Galatina, Santo Paolo meo de Galatina, e lassi la ballare sta signorina, e lassi la ballare sta signorina.
E ai,